Les séminaires du Collège de France.
Bon après-midi. On s'approche de la deuxième moitié de notre réunion. À côté de moi, vous voyez M. Robert Harrison, auteur de nombreux ouvrages érudits. Je pourrais énumérer les titres. Et on aurait perdu la moitié du temps qui nous reste. où je vous conseille de faire une recherche sur l'Internet pour vous convaincre de l'étendue incroyable de ces connaissances et de ses intérêts. Il a eu la gentillesse d'interrompre son séjour à Rome pour nous joindre ici, et nous sommes très motivés et très passionnés d'avoir la chance de l'écouter. Merci Robert.
Merci à vous. Et donc, je suis ravi d'être de retour au Collège de France. J'ai tenu un cours ici en 2010. Et je suis particulièrement ravi d'être en conversation avec Peter Sloterdijk aujourd'hui. Stendhal avait dit un jour, il y a les fromages et le parmesan. Et pour ce qui m'en concerne, dans notre jour, il y a des philosophes et puis il y a Peter Sloterdijk. Alors, avec cette introduction, je vous demande pardon parce que j'ai une irritation de voix. Alors, j'ai demandé à Florence Nogret, qui est professeure de littérature française à la Sorbonne, vient de publier un livre qui a beaucoup de prix, etc. Et j'ai une chance inouïe de l'avoir comme traductrice de mes livres en français. Alors, vu que j'ai préparé une réponse de 10 minutes à la conférence, à la leçon de Sloterdijk d'aujourd'hui, j'ai demandé à Florence si elle peut gentiment lire cette réponse et puis nous allons discuter avec Peter.
Comme les précédentes qu'il a données au cours des deux derniers mois, la conférence de Sloterdijk aujourd'hui est complexe et comporte de nombreuses facettes. Dans ma brève réponse, c'est-à-dire dans la brève réponse de Robert Harrison à qui je prête aujourd'hui ma voix, je voudrais soumettre deux questions à la discussion. La première a trait au motif de la possession qui traverse la conférence d'aujourd'hui. Sloterdijk fait coïncider la découverte au début des temps modernes que le monde dans lequel nous vivons est une sphère avec l'appropriation par l'Europe de tous les poissons libres, ce qu'il appelle poissons perdus, je traduis par poissons libres, dans lesquels elle pouvait planter ses drapeaux. L'ère de l'exploration qui nous a donné le globe équivaut à une forme de chasse à la baleine, à une prise de possession de continents, d'îles et de peuples lointains. La prise de conscience que la Terre est une sphère finie a provoqué une course effrénée des nations européennes pour s'approprier ses ressources limitées, ce que Joseph Conrad, dans les profondeurs du Congo belge, a appelé la plus vile course au butin qui ait jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine et de l'exploration géographique. L'Europe a cédé ses anciennes colonies, mais Sloterdijk nous rappelle qu'elle reste la matrice de toutes les forces centripètes qui, à notre époque, ont provoqué ce qu'il appelle un renversement de la diaspora humaine. Par la mobilisation mondialisée du capital, des télécommunications, du cinéma, de la publicité, de la culture populaire et d'autres néoïsmes, ce renversement nous a donné ce que Michel Serres appelle des objets mondes. L'Internet, la dévastation potentielle du monde par les armes nucléaires, les catastrophes environnementales à l'échelle planétaire. La formidable interconnectivité de notre époque a fait de tous les êtres humains un seul et même peuple. Plus précisément, elle a fait de l'espèce humaine, dans son ensemble, le patron de la Terre entière, et ce, malgré les inégalités flagrantes et persistantes en matière de richesse, de droits, de santé et de conditions environnementales d'existence. J'ai mentionné Michel Serres,
Et la première question que j'aimerais poser à Peter Sloterdijk est de savoir ce qu'il pense des spéculations de Serres dans son livre « Le mal propre », publié en 2008, dans lequel Serres affirme que les nombreux types de pollution planétaire causés par la civilisation contemporaine sont le moyen pour l'humanité de marquer la Terre dans son ensemble comme son propre territoire, sa malpropre propriété. Selon Serres, je cite, « Les tigres pissent pour délimiter leur niche, ainsi font sangliers et chamois. Mimons-nous ces animaux ? Je le crains, je le vois, je le sens. Quiconque crache dans la soupe ou la salade s'en assure la propriété. » L'éthologue, science des conduites animales comme les pratiques hospitalières, mais aussi l'histoire des religions, les techniques agricoles, même la sexologie, montrent le rapport étrange et répulsif entre le sale et la propriété. Le malpropre dit que les pollueurs salissent le monde pour se l'approprier. Rien de changé depuis les chiens et les tigres. Pour ma part, j'ai quelques doutes sur la thèse de Serres. Il y a une différence entre marquer un territoire et le posséder, entre revendiquer et assumer la propriété. À mon avis, c'est précisément parce que nous n'assumons pas la propriété de la Terre que nous sommes si disposés à la salir. Selon Serres, nous devrions cesser d'essayer de posséder le monde et devenir plutôt des locataires. Pourtant, je pense que nous serions tous d'accord pour dire que le propriétaire d'un bien est nettement moins susceptible de le souiller que celui qui le loue. Après avoir découvert que notre monde est sphérique et fini, et que nous sommes tous coincés sur cette planète sans issue, nous avons revendiqué la Terre sans nous l'approprier. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés à ce stade de notre hominisation est l'appropriation. Comment abandonner la mentalité du locataire, ou même pire, du parasite ? Étant donné que nous vivons maintenant dans l'ère de l'Anthropocène, et que nous le voulions ou non, la Terre nous appartient désormais, nous ferions bien de découvrir ou redécouvrir comment appartenir à la Terre. Je crois que Zarathoustra avait quelque chose de ce genre à l'esprit, lorsque sur la place du marché, il a proclamé « Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la Terre. Pécher contre la Terre est désormais la chose la plus redoutable. Le surhomme est le sens de la Terre. » Que votre volonté dise, le surhomme sera le sens de la Terre. À la fin de sa conférence inaugurale, il y a quelques semaines, Sloterdijk a invoqué l'homme souterrain de Dostoïevski, qui définit l'homme comme une créature bipède et ingrate. Sloterdijk déclare que cela décrit l'homme contemporain de ce continent, l'Européen moyen de notre temps, qui vit dans la colère, pas toujours injustifiée, sans réfléchir aux prémices de son existence. Cet homme serait l'incarnation de l'ingratitude. La deuxième question que j'aimerais poser à Sloterdijk concerne cette idée provocatrice de l'ingratitude. Nous avons tendance à oublier à quel point l'État moderne, la France en tête, a favorisé un transfert massif de biens culturels à ses citoyens. La semaine dernière, j'étais à Rome et j'ai revisité la Villa Borghese, le Palais Altemps, le musée du Palais Massimo, qui, comme d'innombrables autres lieux en Europe, étaient autrefois des propriétés privées transmises d'héritier en héritier. Aujourd'hui, le citoyen moderne est devenu le bénéficiaire attitré de la quasi-totalité du capital culturel humain. Les bibliothèques publiques sont essentiellement gratuites. Toute la sagesse du monde est désormais à la disposition du citoyen alphabétisé. Il me semble que cette redistribution générale de l'héritage et de la propriété culturelle à l'époque moderne représente un tournant dans l'histoire mondiale, une sorte de péripétie dans l'intrigue de la grande expédition européenne de chasse à la baleine. Sloterdijk déclare que le citoyen européen contemporain, je le cite, « se laisse porter par la dérive de situations quasi post-historiques, sans savoir et a fortiori sans vouloir savoir » de quelle source est sorti le modus vivendi contemporain ? L'Européen d'aujourd'hui est trop souvent le consommateur final d'un confort dont il n'a plus la moindre idée des conditions d'existence. Si je comprends bien, Sloterdijk, l'ingratitude du citoyen contemporain est une forme de refus volontaire de s'approprier le passé trouble de la civilisation européenne. J'aimerais soumettre à discussion cette question. L'ingratitude de l'Européen moyen est-elle liée à son sentiment que les héritages culturels de l'Europe ne lui appartiennent pas à proprement parler, bien que l'État moderne lui ait donné les moyens et la liberté de se les approprier? Sloterdijk affirme que, je le cite, « l'ingratitude n'est qu'un synonyme du manque de culture et un symptôme curable du dit ». Quelle forme pourrait ou devrait prendre ce remède, cette cure ? Dans nos conditions d'existence post-historique, qu'est-ce qui pourrait pousser le dernier homme, comme l'appelait Nietzsche, à devenir l'héritier plutôt que l'orphelin de l'histoire ? Ou bien l'histoire européenne est-elle destinée, au moins dans un avenir prévisible, à rester un orphelinat de consommateurs ? Le dernier homme de Zarathoustra dit « Nous avons inventé le bonheur, puis il cligne des yeux ». L'ingratitude, signalée par Peter Sloterdijk, fait-elle partie du régime de ce dernier homme ?
Alors, j'ai posé mes questions, je laisse la parole à M. Sloterdijk.
Là, il y a trop de notions qui résonnent dans ma tête en même temps. Et je pourrais seulement répondre poétiquement. Avec des rimes et des rythmes.
D'accord.
Mais je voudrais commencer par cette association entre propreté et propriété. Je crains que Michel Serres s'est laissé porter un peu loin par la ressemblance entre ces deux mots. Parce que dans la connaissance ordinaire, on fait une expérience qui pointe dans l'autre direction. Au moment où une prise de possession d'un objet par un véritable propriétaire se réalise, il y a un passage de l'attitude négligente à l'attitude de la gestion consciente du bien qu'on possède. Je crois que c'est un faux exemple. Je crache dans ma soupe pour m'assurer le non-appétit de mon voisin. Et la démarcation d'un territoire par un chien ou un tigre qui lève sa jambe pour mettre une trace olfactrice ne décrit pas exactement ce que les chefs d'État veulent exprimer s'ils tirent des frontières entre les nations. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'approche à la question de la globalisation peut être faite par la primauté c'est-à-dire des déchets.
Alors, aux États-Unis, quand on regarde le paysage en général et on pense au peuple indigène qui l'habitait avant la colonisation le continent, je trouve qu'il y a plus qu'un simple jeu de mots de propriété et propreté, parce que de leur point de vue, encore aujourd'hui, l'homme blanc a complètement pris possession d'une façon la plus sale imaginable de leur point de vue. Mm-hmm. Et donc même si ce n'est pas voulu que je crache dans l'assiette communale de la salade, il est vrai que parfois la prise de possession prend des formes Quel est le mot que je cherche là, de profanation, disons.
Yeah. Mais le comportement humain traditionnel avant le début des époques qu'on appelle maintenant anthropocène était toujours structuré par une certaine, mais par un mélange entre négligence et responsabilité par rapport à l'environnement. Mais il ne faut pas oublier que le concept d'environnement est apparu seulement au début du 20e siècle, parce que l'être humain ne se considérait pas comme quelqu'un, comme un gardien de la déchetterie. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression que on a attendu le surhomme, et ce qui est venu, c'est le gardien de la déchetterie. C'est-à-dire cette croissance vers le haut se réalise d'une façon un peu bizarre et paradoxale. Hein. Mais il est vrai que le comportement des êtres humains envers le soi-disant environnement, en allemand on dit Umwelt, hein, oui. Se caractérise depuis toujours par la conviction qu'on ne cultive que ceux que tu risques de retrouver si tu passes une deuxième fois à un endroit que tu as abusé comme toilette ou comme déchetterie. Hein. C'est-à-dire la culture de la terre commence avec la sédentarité, lorsque les êtres humains sont condamnés à choisir leur séjour aux proximités de leurs déchets. Hein. Ils restent près de leur mort, près de leurs excréments et près de tous ceux qui jettent. Hein. Et ça donne cette odeur spécifique de la patrie. Hein. Hein. Parce qu'il... nulle part dans le monde, il pue comme chez soi. Donc la patrie, le sentiment patriotique passe par le nez. J'ai connu un jeune Coréen avec qui j'allais dans un restaurant coréen à Munich il y a une trentaine d'années. Et en entrant dans le restaurant, il a reniflé tout à coup une odeur qui le rappelait sa jeunesse. Les Coréens connaissent une sorte de chou cuit avec du vinaigre. Ça donne une odeur, de kimchi. Kimchi. Yeah. Il a respiré et se mettait à pleurer immédiatement. Yeah. Pour lui, le kimchi, c'était le temps retrouvé et l'odeur de la patrie. Il est vrai que maintenant, après la multiplication de la vie sédentaire et des formes de vie sédentaire, où tout le monde jette tout ce qu'il peut ou elle peut, la transformation de l'extérieur en déchetterie devient de plus en plus visible. Je crois que la première fois que la question des déchets a été mentionnée dans la législation moderne, c'était dans les constitutions de Melfi, issues par l'empereur Frédéric II en 1231. Constitution von Melfi, où il a défendu de jeter de peaux d'animaux dans les rivières. Parce que c'est la première fois qu'un acte de salissement a été formellement interdit. Et sous peine d'une amende. Tu jettes la peau d'un animal mort utilisé dans la fabrication des cuirs et de chaussures, tu le jettes dans une rivière et tu payes une amende. Alors la preuve existe que depuis au moins 700 ans, une sorte de conscience écologique est en train de se former. Mais en ce qui regarde Michel Serres, je me souviens d'un interview qu'il a livré il y a une vingtaine d'années à un journal où il racontait son choc qu'il a éprouvé lors d'une longue promenade sur le bord atlantique en France. Parce qu'il connaissait les mêmes plages depuis sa jeunesse et tout à coup, il se promenait au milieu de déchets, sur une centaine de kilomètres. Serres était un grand marcheur. Et ça, je crois que son attachement au sujet du salissement remonte aussi à des moments autobiographiques. Et je ne pense pas qu'on peut généraliser le problème comme ça, parce qu'il y a toujours, dans chaque forme de production, et dans chaque forme de consommation, se pose le problème du reste.
Mais dans les débats contemporains sur la pollution, la question de à qui appartient l'environnement, à qui appartient la Terre, c'est devenu tout à fait évident que la nation est très en arrière pour être placée, pour adresser ces problèmes, parce que nous avons d'une part les jeunes qui disent « mais cette profanation, c'est notre héritage, ça appartient à nous, bien qu'on n'a pas le pouvoir à l'heure actuelle de d'en prendre les décisions. » Et donc, je crois que ceux qui produisent le plus de pollution sont pas forcément ceux auxquels appartient ce territoire. La forêt amazonienne n'appartient pas au Brésil, simplement. Nous savons, d'un point de vue écologique, c'est un bien, si on veut parler dans ces termes, de l'humanité. Et c'est les jeunes qui sont le plus conscients du fait qu'ils sont, à l'heure actuelle, dépossédés des moyens de faire des décisions de ce qui est effectivement, par droit naturel, leur patrimoine à venir. C'est pour ça que j'ai posé la question entre la pollution et la propriété.
Mais on pourrait imaginer un dialogue entre Michel Serres et un représentant du courant libertaire aux États-Unis ce dernier, un libertaire, pourrait présenter un argument dans l'autre sens qui dirait si la Terre ou l'océan aurait un véritable propriétaire, elle serait propre.
Oui.
C'est exactement.
Oui, c'est ça que je dis.
C'est l'absence du véritable propriétaire qui mène à l'absence du responsable, et tout le monde attend qu'un autre irresponsable fasse le premier pas. Ouais. Et tant que nous sommes pris par cette logique de cette irresponsabilité, on ne peut pas sortir. Et de l'autre côté, la plus grande erreur de la loi internationale moderne, mais qui remonte à un réflexe de prise de possession immémorial, c'est l'assomption que les richesses de la terre qu'on trouve par hasard dans le sol de ton territoire appartiennent aux nations qui y habitent. Hein. Il faudrait dire que les Russes, les Saoudis arabiens, hein, ce sont des voleurs hein, qui volent à l'humanité, qui serait le sujet de le propriétaire légitime. Ouais. Hein, ils volent aux autres leur richesse pour les revendre. Hein. Et tant que nous sommes piégés par cette ancienne logique de la propriété locale et de la priorité du possesseur.
Oui, hein, oui, exact. Hein,
et tant qu'on n'est pas capable de comprendre la différence entre propriété et possession,
oui, exact, hein, c'est ça.
On est tous égarés dans un labyrinthe juridique et moral d'où on ne sort plus. Hein. Il faudrait constituer une humanité capable d'être un véritable propriétaire de la terre. Hein. Et même les grandes idées des religions, l'islam, le christianisme, selon lesquelles nous ne sommes que des pèlerins, à la rigueur des visiteurs avec un visa pour quelques années, ou un visa à temps de vie, disons. Mais on est que de passage. Même les grandes religions ne sont pas capables de nous transformer en maîtres et possesseurs. Descartes était très frivole lorsqu'il a prétendu dans son fameux traité que l'homme serait maître et possesseur. Il ne l'est pas du tout. Hein. Il est le pollueur général hein, et l'utilisateur général qui transforme tout ce qu'il trouve en moyen de production. Hein. C'est quelque chose que Heidegger appelait la mise au gestel, hein, c'est-à-dire la transformation de tout ce qui existe en matériaux. Hein, et cet matérialisme n'est pas la croyance que la matière prévaut la conscience. Hein. Non, le véritable matérialisme, c'est l'idée selon laquelle tout peut être utilisé et rien doit être vénéré ou respecté. Oui, et c'est une distinction qui remonte jusqu'à Saint Augustin, qui en vain essayait d'enseigner ses frères et sœurs chrétiens la différence entre jouir et utiliser. Uti und fruit. Et dans son analyse de la perversion humaine, il n'a besoin que de ces deux termes, parce qu'il dit les hommes, il utilise ce qu'il devrait vénérer, ou dont il devrait jouir, ou il jouisse de ce qu'il devrait utiliser. Et là, toute la perversion de l'âme humaine est saisie dans sa racine. C'est la perversion primordiale, l'incapacité de distinguer entre l'utilisable et le vénérable.
Et c'est pour ça que je voulais lier ce discours à l'ingratitude de ce que tu appelles l'européen moyen. Et est-ce que la consommation est une fausse vénération? Ou Épicure disait que beaucoup de mots dans le monde proviennent de l'ingratitude. Parce que l'ingrat, c'est celui qui n'a jamais assez. Et donc, c'est toujours plus. Et ce plus fait que il attribue même l'obésité à l'ingratitude. Parce que on n'est jamais saisi. Mais la distinction d'Augustin est une distinction que je crois que notre société contemporaine ne respecte pas. Et c'est vrai. C'est pour ça que c'est contre-intuitif de suggérer que l'humanité globalisée désormais peut-être possède tous les moyens pour gérer les ressources de la Terre, mais ne sont pas les vrais propriétaires de ça. Je ne veux pas dire psychologiquement, mais peut-être spirituellement. Et vous parliez de le goût et le patriotisme, mais il ne faut pas oublier que le homo sapiens, le sapiens, la connaissance, c'est une espèce de goût. Et donc, si on devient une espèce unifiée, globalisée finalement, peut-être c'est la terre, l'odeur de la terre, le goût de la terre qui finalement va nous rendre homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui goûte, l'homme qui sent, l'homme qui a cette délectatio de ce qui doit être vénéré, pas simplement consommé.
Nouvelle anthropologie, homo delectans.
Oui, oui.
Alors, si je parlais de l'ingratitude, c'était d'abord pour élaborer un bon mot qui remonte à Dostoïevski dans son fameux petit roman de l'homme dans le souterrain. C'est un grand monologue dans lequel l'homme dans le souterrain fait débuter, pour ainsi dire, le ressentiment à l'état pur sur la scène de la littérature mondiale. Donc c'est l'explosion du ressentiment absolu. Et avec une mauvaise jouissance, il fait une prophétie sur ce qui se passe chez les hommes. Même si l'homme de l'Ouest construit ce fameux palais de cristal. Il est contemporain de la deuxième exposition mondiale à Londres, dont il a parlé dans ce fameux feuilleton Winterliche Aufzeichnungen über sommerliche Eindrücke, des réflexions hivernales sur des impressions estivales. Un des meilleurs roman de voyage jamais écrit, malheureusement très peu connu. Et là, il a vu le palais du cristal. Et selon son idée, sa conviction que l'humanité occidentale est sur la route de l'auto-extermination, il nous dit que à la fin de l'histoire, on va faire exploser ce palais de cristal parce qu'on ne supporte plus la vie confortable. Et de là, il y a une ligne indirecte, un beau mot attribué à Benito Mussolini lorsqu'il définit le fascisme. Il dit « c'est l'horreur de la vie commode ». Et l'homme dans le souterrain fait ce bon mot extraordinaire qui dit l'homme est un animal bipède ingrat. Bien sûr, citation de Diogenes Laertius qui, dans son livre sur les grands penseurs de l'Antiquité, dans le chapitre sur Diogène, rapporte l'anecdote selon laquelle Diogène serait apparu un jour dans l'Académie de Platon avec un poulet éplumé dans la main pour dire « Voilà l'homme de Platon. Homo est anima bipes in plume. C'est une parodie sur cet exercice de définition qu'on trouve dans le Politikos. Et Dostoïevski, bien sûr, connaît bien la source de sa citation. Et il remplace l'absence des plumes par l'absence de gratitude.
À propos de Nietzsche, donc je suis vraiment curieux si vous pensez que le dernier homme est ce citoyen ingrat de nos jours, et aussi si le concept de surhumanité que Nietzsche avait, Zarathoustra, proposé dans le marché, c'est toute la ville contemporaine, la métropole n'est qu'un marché d'ailleurs. Et l'idée que le surhomme est celui qui peut-être sera capable de prendre possession d'une façon authentique de ce qui est devenu le sien, pour le bien ou le mal, c'est-à-dire la surface de la terre entière. Et je croyais, en lisant votre leçon pour aujourd'hui, que effectivement il y a une espèce de philosophie quasiment généalogique d'arriver à un point où les propositions de Zarathoustra ou bien les propositions de certaines écologistes radicales nous mènent à cette question.
Mais chez Nietzsche, si je comprends bien, le surhomme, c'est surtout ce caractère humain qui aurait laissé le besoin du ressentiment derrière soi. Hein. Il faut pousser au-dessus de sa propre bassesse. Hein. Et de cette façon, il répète un mouvement qu'on trouve chez Platon, surtout dans le banquet, où Socrate explique cette expression curieuse d'être supérieur à soi-même. Si selbst überlegen sein, cela présuppose qu'on se coupe en deux, une partie inférieure et une partie supérieure, et on serait, pour ainsi dire, un agencement consistant d'un chevalier et d'un cheval. Et le cheval veut aller où il veut. Et le chevalier doit apprendre à diriger la course de son automobile, parce que la partie inférieure est autokineton, elle bouge d'elle-même. Et Nietzsche répète à sa façon cette spéculation, et il mise sur une énorme extension de la maîtrise de soi.
Oui.
Pour lui, c'est tout le secret de l'humanité, c'est l'acquisition de la maîtrise de soi. Et toute la terre, selon Nietzsche, a juste ici été un grand laboratoire où l'on a essayé de gagner la maîtrise de soi, mais d'une mauvaise façon. Il parle de la Terre comme une étoile ascétique, hein, habitée par les frustrés. Et pour ainsi dire, selon les religieux, la frustration serait le sens de la Terre. Hein. Il se retire dans les déserts dans les forêts, dans les cavernes, dans les couvents, et ça donne au plaisir de l'autoflagellation. Il faut, le surhomme serait l'inventeur du nouvel ascèse, qui mène plutôt dans la direction de la nécessité de retrouver la joie de vivre. Et où la joie manque, tout est faux. C'est dans une formule très simple, l'essence du nietzschéanisme. Et si l'homme, selon Nietzsche, est la corde tendue entre l'animal et le surhomme, il faudrait élever des saltimbanques qui savent se promener sur la corde tendue sans tomber. Et c'est pas pour rien que le Zarathoustra commence avec un épisode où un saltimbanque tombe de son cordon et Zarathoustra lui explique tu as fait du danger ton métier. C'est pas du tout méprisable. Et à partir de ce moment-là, on a à la recherche d'êtres humains non méprisables. Mais rien est possible sans un renouvellement de cette idée de la maîtrise de soi, y compris de la maîtrise de notre métabolisme avec la terre. Oui. C'est par là que l'idée marxiste du travail rentre dans la scène et permet peut-être une combinaison avec les idées nietzschéennes.
Oui, mais pour moi, ce n'est pas évident parce que nos rapports avec la terre sont extrêmement troublés par le fait que, effectivement, le ressentiment et la haine et ce que Zarathoustra dit péché contre la terre est désormais la chose la plus redoutable. Quelle est la motivation de ce péché contre la terre? Il y a un ressentiment du fait que la terre est le lieu de notre mort et de notre finitude et de ce qui aussi met fin à la vie. Et pour moi, les rapports hostiles qui marquent souvent le rapport avec le terrestre à un niveau subconscient, si vous voulez, où on prend revanche. Ce que Nietzsche disait, le revenge, cette idée que nous sommes une espèce extrêmement colérique quand il s'agit d'accepter les limitations, la finitude et ce que la Terre impose à notre espèce comme humilité. Parce qu'on ne peut pas aimer la Terre sans avoir une prise de conscience de humilité, parce que l'humilité et le humus sont liés. Le humus est le substance de cultivation. Humus aussi, c'est là où traditionnellement c'était l'enterrement du cadavre. Mais proposer une humilité à notre espèce, c'est une proposition très difficile parce que, comme la tradition chrétienne a compris que c'est effectivement la superbia, volonté de puissance. Et je crois que peut-être Nietzsche voulait une volonté de puissance sublimée, pas dans le ressentiment et la domination, mais dans une, comme il disait pour le surhomme, un César avec le cœur de Christ.
Mais je me demande si Nietzsche n'est pas un des auteurs qui reste dans la lignée de la pensée romaine, antique, où l'on a découvert la différence entre deux sortes de maternité. Il y a la bonne mère et la mauvaise mère. Surtout, ce que l'élément fort des contes de fées allemands, c'est qu'ils ont un penchant d'élaborer la figure de la mère, de la mauvaise mère. Et la mauvaise mère, les Romains la connaissaient déjà, ils avaient même un terme spécial, parce qu'ils parlaient de la mater, et la mauvaise mère avait le titre Noverca. Donc, c'était une catégorie à part. Et avec la Noverca, la Noverca se cache dans la bonne mère, parce que les mères sont des êtres ambivalentes. Non, c'est probablement la moindre des choses qu'on puisse dire à ce sujet délicat. Donc, où il y a une mère, il y a toujours un soupçon de matricide dans l'air.
Oui.
et je crois que chez Nietzsche, il n'est pas du tout clair qu'il ait vraiment surmonté son penchant matricide, parce que son surhomme est un homme sans partenaire. Ouais. Il prétend à la complétude. Il veut se défaire de son héritage maternel et de l'attraction de l'autre sexe. Hein. Ouais. D'ailleurs, comme le grand sage des Chinois, Lao Tzu, qui est né à l'âge de 81 ans, et il vient au monde dans une forme aussi complète qu'il n'a plus rien à apprendre ici. Et la première chose qu'il fait, il fuit sa mère. Et son nom serait un réflexe du choc de sa mère, parce qu'elle l'appelait, lui, lorsqu'il courait devant elle, là-haut-dessous, veux enfant, où veux-tu aller? Alors, toute l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de l'éloignement de la mère. Oui. Et on n'a pas encore conçu une forme de devenir adulte avec une véritable réconciliation avec la mère.
D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps nous reste, mais en parlant de les mères et la maternité, toute la partie de la leçon d'aujourd'hui sur la politique de population, tout ça, c'est exploitation de la maternité pour faire croître la population européenne et ce qui a mené à l'excès de fils qui devaient avoir quelque part pour y aller, pour en venir. Et si j'ai bien compris le raisonnement, c'est par un contrôle très bien organisé de la ressource de la maternité qui a provoqué les événements démographiques.
C'est tout. La Prussie comptait 1 million d'habitants en 1700 et 20 millions en 1900. Et il faut lire Gunnar Hansson, si vous supportez le ton sec et cynique de son écriture, vous lisez Hansson et vous comprenez tout. Il disait, les Prussiens avaient deux armes, l'artillerie et l'utérus des Prussiennes.
Ouais.
Parce qu'il y avait 7-8 enfants survivants par femme à cette époque, dont on pouvait sacrifier 3 ou 4 pour le roi.
Ouais. Il paraît qu'après une bataille où il y avait 10 000 Français morts de l'armée de Napoléon aurait dit, une nuit à Paris reparlera tout ça. Et il n'avait pas tort dans le sens que vous avez cité les guerres mondiales, l'immigration ailleurs, ça n'a pas changé du tout l'effet réel de la population humaine. C'est effrayant comme pensée.
Mais après cette citation de Napoléon, il serait irresponsable de laisser sortir le public ici. Parce qu'il rentre dans un champ de bataille. On ne sait pas comment. Hein. Ouais. De toute façon, on se reverra la semaine prochaine, lundi prochain, pour un dernier retour. Je vous remercie de votre patience.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.